Bonsoir à tous. Manger mieux pour moins polluer. Des chercheurs se penchent sur nos assiettes pour sauver la planète. Pas de menu miracle, bien sûr. Il faut tenir compte de la faim dans le monde. Mais le régime végétalien, sans viande, ni poisson, ni produits laitiers, émet clairement le moins de CO2. On verra ça. Une naissance par ovocyte développée in vitro, première mondiale à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. La maman avait subi de la chimiothérapie pour un cancer du sein. Au sommaire également ce soir, droite et extrême droite qui dénoncent l'électoralisme de l'Élysée sur l'immigration. Bibi ou Benny, les Israéliens aux urnes pour les deuxièmes législatives de l'année. Lyon et Lille de retour sur le terrain pour le début de la Ligue des Champions, c'est du football. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, vous avez remarqué peut-être comme nous, Sébastien, que les livres de développement personnel sont partout, les coachs aussi. C'est un marché ultra porteur. Reprendre confiance, apprendre à s'aimer, à manger, à se relooker, ne plus avoir peur. Est-ce que l'épanouissement personnel est devenu l'opium du peuple, comme le dira l'une de nos invitées? Est-ce qu'il y a des recettes alors pour tout cela? Est-ce que ça nous aide à nous recaler? Et au moins 01 45 24 7000.
France Inter.
Toutes les études le montrent les unes après les autres. Ce que nous mangeons a un impact sur le climat. Et si l'on veut préserver les ressources de la planète, eh bien, il faut réduire la quantité de viande dans nos assiettes. La chaîne alimentaire, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est dû en grande partie à notre consommation de produits carnés. Ce constat connu, des chercheurs américains de l'université de Baltimore essaient de faire les meilleurs menus par pays. Bonsoir Lisa Guyenne.
Bonsoir.
À la fois en limitant au maximum leur empreinte sur l'environnement et en répondant aux besoins nutritionnels, évidemment, des populations. Alors, ça donne quoi, Lisa ?
Vous l'avez dit, on sait déjà que la viande produit énormément de gaz à effet de serre. À l'inverse, on pourrait donc penser que le régime vegan, sans aucune protéine animale, est le meilleur pour la planète. Et c'est vrai, 70% de gaz à effet de serre en moins, mais un autre régime, qui inclut lui des animaux, s'avère tout aussi performant. C'est un régime composé d'animaux du bas de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire des insectes, des mollusques et des petits poissons, comme les sardines et le
On apprend aussi que le régime végétarien n'est pas une solution miracle.
Oui, car ce régime inclut des œufs et des laitages. Les laitages étant issus de l'élevage bovin notamment, ils consomment énormément de ressources. Résultat, dans 90% des pays, le régime végétarien pollue plus que le régime à base d'insectes et de mollusques. Et dans 2/3 des pays, on pollue même plus qu'un régime qui inclut de la viande, mais qui exclut les laitages.
Et au-delà des considérations environnementales, les chercheurs prennent aussi en compte la santé des consommateurs.
800 millions de personnes souffrent toujours de malnutrition. Difficile donc d'imaginer un régime complètement vegan pour un pays touché par de nombreuses carences et autres problèmes de croissance. Pour les auteurs de l'étude, il faudrait en fait que les pays pauvres incluent davantage de viande et de laitage dans leurs repas, quitte à augmenter leur empreinte carbone. Et en échange, les pays riches devraient réduire drastiquement leur consommation. C'est une question d'équilibre dans la balance mondiale. L'étude conclut donc que les compromis seront nécessaires, mais les auteurs notent tout de même que oui, il est bien possible de lutter à la fois contre le changement climatique et contre la faim dans le monde.
Voilà donc ce que pourraient être nos régimes idéaux pour une meilleure santé de la planète. Merci Lisa Guyenne, mais il faut faire plus parce que les dernières simulations des scientifiques français en matière de climat ne sont pas franchement optimistes, tout court d'ailleurs. Ils ont fait tourner leurs ordinateurs, nos experts, et ils sortent plusieurs scénarios. Le pire d'abord, on ne fait rien et il fera en moyenne 6 ou 7 degrés de plus sur Terre à la fin du siècle par rapport à la fin du 19e. Et le plus optimiste de ces scénarios, on reste sous la barre des 2 degrés de plus en 2100 et donc on respecte l'accord de Paris, mais c'est au prix d'efforts énormes et immédiats et en plus en parvenant à extraire du CO2 de l'atmosphère, beaucoup de CO2, comme l'explique le chercheur CNRS Olivier Boucher de l'Institut Pierre-Simon Laplace à Saint-Dié-Dauphin.
Les scénarios les plus optimistes nécessitent de réduire les émissions le plus rapidement possible. Malheureusement, ça risque d'être pas être suffisant et il faut effectivement aller rechercher le CO2 qui est dans l'atmosphère. Et une manière de faire cela, c'est en plantant des arbres, de la biomasse, en la récoltant, en la brûlant, on récupère le CO2, on le stocke dans les sous-sols de manière à faire diminuer les concentrations atmosphériques. Concrètement, ça veut dire consacrer des millions d'hectares à des cultures pour essentiellement aller retirer du CO2 de l'atmosphère. Sur le papier, c'est possible, mais il y a des grosses interrogations sur la mise à l'échelle. Est-ce qu'on peut atteindre les milliards de tonnes de CO2 qu'il faut retirer dans l'atmosphère dont on parle dans ces scénarios? Donc là, il y a encore des incertitudes et des interrogations. On peut aussi réfléchir à des moyens plus industriels d'aller rechercher du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, c'est d'autres techniques pour lesquelles il existe des prototypes, mais là aussi, on peut se poser la question de savoir si c'est réaliste, si c'est faisable à l'heure actuelle.
Et pour aller plus loin, vous trouverez sur franceinter.fr à la fois l'émission du jour de Mathieu Vidard, La Terre au carré, consacrée aux dernières simulations climat des chercheurs français qu'on vient d'entendre, l'article de Sandy Dauphin sur le sujet, et puis celui sur les nouvelles cartes de la pollution à Paris qui ont été présentées aujourd'hui par Anne Hidalgo.
Emmanuel Macron sur les terres de la droite et de l'extrême droite en matière d'immigration.
C'était hier soir devant le gouvernement et la majorité, avant un débat au Parlement dans 15 jours, et surtout avant les échéances à venir, municipales en mars, présidentielle en 2022. Le chef de l'État veut regarder le sujet en face, assure qu'on est parfois trop laxiste en prétendant être humaniste. L'opposition n'y voit qu'opportunisme électoral, comme le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, au micro de Cécilia Arbonin.
L'approche des élections municipales n'est sans doute pas étrangère à la subite prise de conscience d'Emmanuel Macron. Je crains qu'on ne soit à nouveau, comme dans beaucoup de sujets, dans le domaine unique du slogan. Son inaction n'a fait qu'aggraver la situation migratoire dans notre pays. Et aujourd'hui, il feint de s'en étonner puisqu'il refuse ici de souscrire à toutes les propositions que nous avons formulées, que ce soit les quotas, que ce soit l'expulsion des étrangers radicalisés ou délinquants, que ce soit la mise en place de procédures de rétention pour les illégaux. Bref, aucune réponse concrète, des paroles, du blabla, du vent. S'il y a des propositions qui vont dans le bon sens, je les soutiendrai. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est un tournant? Est-ce que c'est une posture? J'attends les propositions concrètes mises sur la table.
La politique encore avec ce grain de sable dans les changements cet été à mi-mandat à la tête des commissions de l'Assemblée. Pas facile pour En Marche d'échapper au travers de la vieille politique dénoncée par Emmanuel Macron. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
La présidente de la commission des affaires européennes s'accroche à son poste.
Oui, en juillet dernier, comme le groupe de la majorité s'y était engagé, tous les postes à responsabilité ont été remis en jeu pour être renouvelés. Problème effectivement à la commission des affaires européennes. Un nouveau président a été élu. Il s'agit de Pierre-Alexandre Anglade, sauf que Sabine Thillet, la titulaire du poste, a refusé de démissionner. Or, si elle n'a pas démissionné, officiellement, c'est compliqué de la remplacer. Écoutez Sabine Thillet.
J'ai l'impression de respecter les règles. Il suffit de regarder le règlement intérieur de notre groupe. Je ne suis absolument pas en infraction.
Alors, ce n'est pas ce que pensent les députés de la majorité. Enfin, ceux qui étaient d'accord avec cette règle de renouvellement des postes à mi-mandat, c'est le cas de Coralie Dubost, qui est membre de cette commission des affaires européennes.
C'est quelque chose qui me semble très naturel dans notre mode de fonctionnement, qui ne veut pas avoir des sortes de barons. Vous voyez, on veut que les responsabilités tournent et que chacun puisse exprimer son talent, ses compétences.
Quant à l'opposition, qui n'a jamais été très favorable avec ces histoires de renouvellement, elle a plutôt tendance à soutenir l'actuelle présidente, évidemment, comme le député Les Républicains, Damien Hamad, qui salue le travail depuis 2 ans de Sabine Thillet.
D'origine franco-allemande, on a pu travailler dans un esprit apaisé, responsable. Et donc je trouve effectivement cet imbroglio un peu dommage. On a déjà beaucoup de mal à faire exister la commission des affaires européennes qui n'est pas forcément toujours très bien respectée dans cette assemblée. Ça serait bien qu'on puisse faire autrement.
Désormais, c'est à Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, de trancher, mais lui-même ne s'est pas appliqué cette règle du renouvellement qu'il avait pourtant édictée.
Karine Bécard, le nouveau plan anti-drogue du gouvernement présenté par le ministre Christophe Castaner. 55 mesures et une en particulier, la création de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant qui remplace le précédent, secoué par des scandales ces dernières années.
Une première mondiale à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart.
La naissance d'un enfant alors que les ovocytes de sa mère ont mûri in vitro. Cette femme avait été traitée en chimiothérapie pour un cancer du sein. On lui avait donc fait un traitement pour éviter une perte de fertilité. Traitement un peu particulier, Véronique Julia, qui a tout de même donné lieu à une naissance cet été.
La patiente en question a eu un cancer en 2013. Elle avait à l'époque 29 ans. En pareil cas, pour préserver la fertilité, on propose avant la chimio une conservation des ovocytes. Ça implique une stimulation hormonale des ovaires pendant 15 jours. Le problème ici, c'est qu'il s'agissait d'un cancer du sein hormonodépendant, sensible aux hormones donc, ce qui veut dire que toute stimulation hormonale était interdite puisqu'elle risquait d'encourager la prolifération des cellules cancéreuses. On a donc utilisé cette méthode alternative, la maturation ovocytaire in vitro. Elle consiste à prélever des ovocytes en l'état, donc immatures, sans aucune stimulation locale, et de les faire mûrir ensuite en laboratoire avant congélation. Le professeur Michael Grimbert est le chef du service de médecine de la reproduction à l'hôpital Béclair.
Cette patiente, on a prélevé ses ovules immatures par voie vaginale sous contrôle échographique, et on a récupéré des ovules qu'on a fait maturer au laboratoire ensuite pendant 24 à 48 heures pour les amener, en tout cas un certain nombre d'entre eux, le maximum à maturité. Une fois qu'ils ont été décongelés, on les a fécondés avec les spermatozoïdes de son partenaire. L'embryon qui a été obtenu a été replacé dans l'utérus et lui a permis d'avoir sa grossesse.
Le bébé, un petit garçon, est né à terme et en pleine forme au mois d'août. Et même si cette méthode reste moins efficace que la stimulation classique des ovaires, cette réussite donne de l'espoir pour d'autres naissances à venir. Il y en aura sans doute puisque plusieurs centaines de femmes atteintes de cancer en France ont déjà bénéficié de cette méthode, mais sans encore initier leur projet de procréation.
Les associations s'attendent à ce qu'ils reviennent rapidement. Un millier de migrants évacués ce matin du camp de Grande-Synthe dans le Nord, mis à l'abri, comme disent les autorités. Le gymnase mis à disposition fin 2018 par la mairie abritait 170 personnes, en plus de 800 autres qui vivaient autour dans des tentes. La justice met en avant des problèmes de salubrité et de sécurité. Leurs parents ne payaient plus la cantine depuis plus d'un an. Deux enfants de CE2 et CM1 étaient au pain et à l'eau depuis plusieurs jours à Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l'Allier, à l'écart des autres élèves. La mairie de cette commune de 5000 habitants reconnaît une décision maladroite, mais elle voulait un électrochoc, dit-elle, pour combler plus de 6000 euros d'impayés. Depuis, eh bien, presque toutes les familles ont réglé leurs arriérés.
Le gouvernement appelle les pétroliers à la modération sur la hausse des prix à la pompe.
Après l'attaque sur deux sites pétroliers en Arabie Saoudite, samedi, la production y est réduite de moitié depuis, mais elle pourrait retrouver son niveau normal plus vite que prévu, dans deux ou trois semaines, alors qu'on parlait jusqu'ici de plusieurs mois. Le ministre saoudien de l'énergie devrait en dire plus dans les prochaines minutes lors d'un point presse à Riyad. Pour le reste, l'ambiance reste assez tendue entre Téhéran et Washington. L'Iran soutient les rebelles du Yémen qui ont tiré samedi, et ce soir, un responsable américain parle de missiles de croisière, assure que l'attaque est partie du sol iranien, et le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, part pour Riyad pour évoquer la réponse aux attaques à Téhéran. On dit ce soir que les États-Unis sont dans le déni. On suivra donc tout ça. Les bureaux de vote ferment dans un peu moins de 3 heures en Israël. Deux camps au coude à coude dans les sondages pour ces législatives anticipées. Le Likoud de Benjamin Netanyahou et le parti centriste bleu et blanc de Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major de l'armée. L'écart est tel que le premier ministre serait même allé faire campagne au mégaphone la voix cassée à la gare routière de Jérusalem. On verra s'il peut retrouver sa majorité absolue à la Knesset, ce qu'il n'a pas réussi en avril. Sondage sorti des urnes donc à 22h tout à l'heure. Et en attendant, eh bien, les enjeux avec les derniers votants. Ce reportage d'Omar Waman à Tel Aviv.
Dans ce bureau de vote au centre de Tel Aviv, les mines sont graves. Gabi, une soixantaine d'années, sort le pas très lent.
But enough is enough.
Assez, c'est assez. Je veux le changement pour les jeunes. On veut la paix, la paix, la paix. Je ne sais pas si Benny Gantz est bien, car il n'est pas un politicien. Mais je veux lui donner une chance.
Tel Aviv est une ville qui vote traditionnellement à gauche, où le rejet de Benjamin Netanyahou est palpable. Chérie, une des rares à sortir de cette école avec le sourire et le sentiment du devoir accompli.
Too many years. Ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir. Il est donc temps de changer, car il n'y a que lui qui l'intéresse. Son seul objectif, c'est de tout faire pour rester au poste de Premier ministre. On ne l'aime pas et sa place est en prison.
Ce qui revient souvent dans les conversations à l'entrée de ce bureau de vote, ce sont les affaires de corruption qui pèsent sur la candidature de Benjamin Netanyahou.
On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas honnête, donc il est Premier ministre et tout. Ce n'est pas une vraie démocratie. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays.
Les premières tendances devraient être connues après la fermeture des bureaux de vote à 22h.
En Tunisie, c'est étonnant, mais c'est officiel. Le second tour de la présidentielle opposera l'austère juriste indépendant Kaïs Sayed, arrivé en tête au mania des médias, qui est en prison, Nabil Karoui. Deux attentats en Afghanistan, le premier pendant un meeting du président afghan dans le centre du pays. Ashraf Ghani est en campagne pour sa réélection et un kamikaze à moto s'est fait exploser au premier point de contrôle qui donnait accès à cette réunion électorale. Il y a au moins 24 morts, une trentaine de blessés. Deuxième attentat une heure plus tard près d'un centre de recrutement de l'armée à Kaboul, cette fois 22 morts, 38 blessés, tous les deux revendiqués par les talibans. La contre-attaque d'Apple devant la justice européenne, la marque à la pomme veut faire annuler le remboursement à l'Irlande de 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux. Bruxelles parle d'aide illégale d'État. Bonsoir. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sébastien.
Évidemment, Apple n'a pas la même lecture.
Oui, cette amende défie le bon sens. Apple est le plus gros contribuable au monde. Très remonté, le représentant de la firme à la pomme, Daniel Bird, explique que c'est aux États-Unis, là où le groupe conçoit ses produits, qu'Apple doit verser ses impôts. Tout, dit-il, a été consciencieusement provisionné à l'époque et depuis payé au fisc américain. Sauf que pendant 11 ans, c'est en Irlande qu'Apple a rapatrié l'ensemble de ses revenus engrangés en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. L'Irlande, où un montage fiscal très élaboré lui a permis d'échapper à l'impôt, résultat 13 milliards d'euros d'économie. Une aide d'État illégale, selon la commissaire à la concurrence de l'époque, Margrethe Vestager, bête noire des lobbies, pourfendeuse des GAFA, aux grandes dames de Donald Trump qui déteste cette tax lady et reproche aux Européens de s'en prendre aux géants technologiques américains. Bref, l'audience en cours à Luxembourg ne va rien arranger au climat transatlantique déjà bien altéré, d'autant que Margrethe Vestager a depuis pris du galon. Elle est vice-présidente exécutive de la nouvelle commission.
Et ça va prendre 2 jours donc pour les auditionner et puis décision dans plusieurs mois avec peut-être un appel derrière. Merci Louise Baudet. Le football et le début ce soir de la Ligue des Champions avec 2 clubs français dans cette première journée. Lille qui se déplace à 21h sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. Une centaine de supporters lillois ont d'ailleurs déjà été arrêtés par la police. Et puis depuis une vingtaine de minutes, Lyon reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. Bonsoir Christophe Vincent.
Bonsoir Sébastien.
Comment les choses se passent-elles pour les Lyonnais, 0-0?
Pour l'instant, toujours un score vierge, mais on a sur le terrain les 2 meilleures équipes du groupe. Hein, sur le papier, le Zénith, tête de série, et puis l'Olympique Lyonnais un petit peu derrière. Pour l'instant, c'est un vrai match de Ligue des Champions avec beaucoup d'intensité, de combat. Les Lyonnais ont été malmenés en tout début de rencontre sous les assauts de cette équipe russe, notamment Azmoun, qui est assez intraitable dans la surface. Il vient d'adresser une frappe croisée d'une vingtaine de mètres dévié par le gardien lyonnais Anthony Lopez. Donc pour l'instant c'est redevenu assez équilibré, mais en tout cas c'est l'heure de vérité pour cette équipe de Lyon. C'est pas vraiment sa véritable valeur après un début en fanfare en Ligue 1, 9 buts en 2 matchs, l'équipe a fait du surplace. L'an passé le scénario était un petit peu similaire, mais les Gones avaient démarré leur campagne européenne par une victoire à Manchester City. C'est tout le bien qu'on leur souhaite ce soir.
Lyon, Zénith, Saint-Pétersbourg donc toujours 0-0, merci Christophe Vincent. Demain gros morceau d'entrée pour le PSG face au Real de Zinedine Zidane et sans ses vedettes Neymar et Mbappé. Neymar qui pourrait jouer pour la 3e journée contre Bruges le 22 octobre. Le tribunal arbitral du sport réduit sa suspension de 3 à 2 matchs. Il s'en était pris aux arbitres sur les réseaux sociaux après la défaite contre Manchester United en mars. Lui était le premier skieur à avoir descendu l'Everest en entier. C'était en 2000, 4h30 de descente intégrale du toit du monde. L'alpiniste slovène Davo Karnikar vient de mourir à 56 ans. On ne sait pas précisément comment, mais en abattant, semble-t-il, un arbre près de chez lui, à la frontière avec l'Autriche. On termine avec un exploit pour fêter une victoire sur le cancer. On le doit cet exploit à une Américaine de 37 ans qui vient de traverser la Manche à la nage, 4 fois de suite, sans s'arrêter. Elle explique qu'elle a terminé son traitement contre le cancer du sein il y a 1 an et qu'elle dédie sa performance, Justine Leclerc, à tous les survivants.
Sarah Thomas a commencé à nager dans la nuit de samedi à dimanche. Elle s'est jetée dans la Manche à minuit, sans combinaison, avec 2 lumières jaunes sur son bonnet et dans le dos. Quelques personnes sont venues l'encourager à son départ sur la plage de Douvres. Pendant ses 4 traversées de la Manche entre l'Angleterre et le Cap Griné dans le Pas-de-Calais, la nageuse américaine a été suivie par un bateau qui l'a ravitaillée en boissons riches en sels minéraux via une bouteille jetée dans la mer. Sarah Thomas a nagé pendant 54 heures sans s'arrêter. L'américaine a parcouru 130 km. La survivante d'un cancer du sein a établi un record du monde. À son arrivée sur la plage anglaise entre 2 bouchées de M&M's, voilà ce qu'elle a répondu à une journaliste de la BBC.
Je suis très fatiguée, je perds ma voix à cause de l'eau salée, je suis toute engourdie. Il y avait plein de gens sur la plage pour m'accueillir, me féliciter, mais je suis un peu déboussolée, je n'en reviens pas de cet exploit.
Traverser la Manche était un rêve d'enfant pour Sarah Thomas. Quand elle a appris qu'elle avait un cancer du sein il y a 1 an et demi, la nageuse américaine a décidé de tout faire pour réaliser cet exploit, une façon pour la trentenaire de se battre et de vaincre la maladie.
54 heures dans de l'eau salée, 130 km. Pas très tentant.
Bah non, moi, au bout de 30 longueurs, je suis au bout de ma vie, mais c'est quand même très agréable.
Pas de la Manche.
Non, de la piscine. Merci Sébastien, oui, c'est ça. À demain.